journal présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. C'était prévisible en raison des vacances scolaires à Paris notamment. Moins de monde dans les rues aujourd'hui pour la 4e manifestation contre la loi travail. Selon la CGT, les manifestants étaient 60 000 à Paris. Nous entendrons le reportage de Bastien Deceninck. Dopé par les bons chiffres du chômage, François Hollande était à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine ce matin. Déplacement sur un site de Thalès où il a vanté les mérites du groupe Tricolore d'électronique. Entreprise qui vise 2500 recrutements en France cette année, nous dira Hakim Kasmi. Dans ce journal, nous irons aussi à Londres. L'ancien maire Ken Livingstone vient d'être suspendu du parti travailliste pour des propos sur Hitler. Enfin, conséquence de la reprise des combats en Syrie, le dernier pédiatre exerçant en zone rebelle à Alep a été tué dans l'attaque d'un hôpital hier par le régime. Nous ferons le point sur la situation humanitaire dans ce pays avec Nadine Epstein. Au sommaire, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Comment sortir de l'état d'urgence? Nous allons poser la question ce soir à deux députés, Jean-Frédéric Poisson et Marie-Françoise Bechtel, à une magistrate Clarisse Taron et un policier Luc Poignant.
Merci Hervé et à tout à l'heure 18h20. C'était donc la 4e journée de mobilisation contre la loi travail ce jeudi à l'appel de 7 syndicats de salariés, d'étudiants et de lycéens. Mobilisation un peu plus faible que les précédentes à cause notamment des congés scolaires. Plus de 50 000 personnes se sont déplacées en région. Il y a eu des heurts en marge des cortèges à Nantes. 57 personnes ont été interpellées à Marseille, 18 à Rennes. À Paris, toujours des échauffourées en ce moment dans le 12e arrondissement aux abords des gares de Lyon et d'Austerlitz. Paris où 60 000 personnes ont défilé selon la CGT, quasiment deux fois moins que le 9 avril. La préfecture de police annonce de son côté 14 à 15 000 manifestants et un policier grièvement blessé. Bonsoir Bastien Deceninck.
Bonsoir.
Moins de monde donc aujourd'hui, mais toujours de la détermination pour le retrait pur et simple de la loi El Khomri.
Oui, et dans le cortège cet après-midi, la même expression qui revenait très souvent, aucune négociation, aucun amendement, les concessions du gouvernement ne changeront rien, car c'est le projet de loi en entier qui doit être supprimé. Éric a participé à tous les rassemblements. Il est très remonté.
D'abord, c'est inadmissible, même si c'était un gouvernement de droite. Et en plus, c'est un gouvernement qui se dit socialiste. Il y en a marre d'être considérés comme des esclaves. Voilà, je pense qu'on va nous remettre les chaînes aux pieds. On nous dit que cette loi, elle est très bien pour pouvoir embaucher. Mais c'est n'importe quoi, parce que les gens qui nous disent ça, ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils savent pas ce que c'est que Pôle emploi. Envoyer des CV, d'avoir aucune réponse. Ils veulent toujours faire du profit sur nous.
Alors pour une 4e manifestation en moins de 2 mois, la grosse question tourne évidemment autour de la mobilisation. Vous l'avez dit, Anne, elle est en baisse. Et cela s'est vu notamment chez les étudiants, mais pas de quoi inquiéter David.
Il y a les examens, il y a des gens qui ont des thèses à rendre, il y a les lycéens et les lycéennes qui ont leur bac blanc, qui ont leur bac, et c'est aussi les vacances. Donc c'est assez compliqué de mobiliser en ce moment. C'est pas pour ça que dans le monde du travail et dans le monde des étudiants, on est plus favorable à la loi qu'avant.
Voilà une contestation qui se transforme donc un peu avec, en plus des rendez-vous comme celui d'aujourd'hui, une sorte de mouvement de fond qui pourrait bien faire bouger les choses. C'est en tout cas ce que pense Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.
On a connu des gouvernements qui étaient dans cette posture et qui au final ont retiré leur projet de loi. Donc voilà, la mobilisation elle continue et notre exigence reste la même. Il y a beaucoup de grèves dans les entreprises, on ne les voit pas dans la rue ces grèves-là. Il y a d'autres journées d'action en perspective, vous voyez qu'on est déterminé.
Et justement, la prochaine journée, ce sera évidemment ce dimanche 1er mai avec des rassemblements et des défilés communs entre les syndicats, ce qui n'arrive pas si souvent. Et ensuite, ce sera donc le 3 mai, jour du début de l'examen du texte à l'Assemblée, avec là encore des rassemblements avec prise de parole près du Palais Bourbon pour interpeller les députés.
Merci Bastien Deceninck pour vos précisions. Le projet de loi travail plane aussi sur la réussite des négociations sur les futures règles de l'assurance chômage. Elles ont repris cet après-midi entre les syndicats et le patronat. Des négociations qui devraient cette fois-ci entrer dans le vif du sujet. La délégation patronale a en effet transmis ses propositions aux syndicats. Un document de 9 pages dans lequel on trouve plusieurs pistes choc pour réduire le déficit de l'UNEDIC estimé à 4 200 000 euros. Les précisions de Sarah Lemoine.
Dans le viseur de la délégation patronale, il y a d'abord les seniors. Aujourd'hui, les chômeurs de plus de 50 ans sont indemnisés pendant 3 ans maximum, contre 2 ans pour les moins âgés. Or, pour le MEDEF, la CGPME et l'UPA, cet avantage n'est pas justifié car le taux d'activité des 50-59 ans est supérieur à celui de l'ensemble de la population active. Les trois organisations proposent donc de relever à 59 ans la possibilité de toucher une allocation pendant 3 ans. Autre piste choc, la modification du calcul de la durée d'indemnisation. Aujourd'hui, la règle, c'est un jour cotisé égale un jour indemnisé. L'idée serait de la moduler en fonction des variations du taux de chômage. Le patronat souhaite également baisser l'allocation des chômeurs qui ne recherchent pas d'emploi. La discussion avec les syndicats cet après-midi s'annonce mouvementée, d'autant que le MEDEF menace toujours de quitter la table des négociations le 9 mai si le gouvernement ne modifie pas d'ici là le projet de loi travail.
Concernant les intermittents du spectacle, après la conclusion d'un projet d'accord historique entre le patronat et les syndicats du secteur sur leur régime spécifique d'assurance chômage, Matignon annonce une dotation annuelle de 90 millions d'euros par l'État pour le futur fonds de soutien à l'emploi dans le spectacle. Un fonds qui n'a cependant pas vocation à compenser les 185 millions d'euros manquants du régime des intermittents. Ces derniers restent mobilisés. L'accord doit en effet toujours être validé par l'UNEDIC. François Hollande était à Gennevilliers ce matin en région parisienne sur un des sites du groupe Thales, groupe tricolore spécialisé dans l'aérospatiale et la défense. Le président, qui cherche toujours à inverser la courbe du chômage, a vanté les bonnes nouvelles du moment sur le front de l'emploi, la baisse du chômage, le choix des sous-marins DCNS par l'Australie ou encore la baisse des défaillances d'entreprises. François Hollande qui a également loué l'excellence technologique de Thales, une entreprise en bonne santé qui s'apprête à recruter Hakim Kasmi.
Et oui, Anne, 6000 postes à travers le monde, dont 2500 rien que pour la France, sont à pourvoir chez Thales. Des embauches qui s'expliquent en fait par un carnet de commandes plein. 19 milliards d'euros de contrats ont été signés l'année dernière. 70% des recrutements se feront dans le domaine des ingénieurs, mais pas que, puisque Thales a aussi besoin de techniciens et de managers pour l'entreprise. Alors si les besoins sont si importants, c'est aussi parce qu'en fait, les commandes concernent tous les secteurs de l'activité de Thales, à savoir le spatial, la défense, les transports avec par exemple le ferroviaire, l'aéronautique qui va connaître une croissance de 6,5% cette année, mais aussi la cybersécurité, comme nous l'explique Vincent Mattei, responsable du recrutement pour la France chez Thales.
La sécurité chez Thales, c'est à la fois la sécurité des transactions de paiement, c'est la sécurité sur laquelle on travaille pour mettre à disposition de villes, de moyens de supervision comme à Mexico. C'est en effet de la cybersécurité au sens intrusion, hacking, qui peut prendre différentes formes, mais la cybersécurité chez Thales, c'est vraiment plein d'environnements assez divers et variés et qui nécessite aussi, évidemment, des profils de recrutement très variés de par ses activités.
Des profils aussi très rares que s'arrachent aujourd'hui les entreprises du secteur dans les grandes écoles d'ingénieurs, mais sur les 2500 embauches, une partie servira aussi à remplacer les départs en retraite. D'autres recrutements sont encore prévus l'année prochaine par Thales, notamment grâce au contrat exceptionnel de 34 milliards d'euros signé par DCNS pour la vente de 12 sous-marins. Et Thales espère bien récupérer un contrat d'un milliard d'euros supplémentaire pour l'équipement de ces sous-marins australiens.
Les explications d'Hakim Kasmi. Pendant ce temps-là, Manuel Valls est arrivé ce jeudi en Nouvelle-Calédonie. Il y passera 3 jours avant de se rendre en Nouvelle-Zélande. Ce déplacement du Premier ministre à Nouméa avait d'abord été programmé début mars, puis reporté en raison des tirs croisés de la gauche et des syndicats contre le projet de loi El Khomri. Le territoire ultramarin est concerné par un référendum d'autodétermination sur son indépendance en 2018, Laurence Perron.
Pour le voyage d'agrément, on repassera. Manuel Valls débarque ici en terrain miné. Il y a d'abord ce référendum à organiser d'ici moins de 2 ans. C'est la route tracée en 1988 par les accords de Matignon. Manuel Valls avait alors 25 ans. Tout jeune conseiller de Michel Rocard, il dit avoir assisté à la poignée de main entre le leader indépendantiste du FLNKS, Jean-Marie Djibaou, et Jacques Lafleur, le chef des loyalistes, en spectateur. En 1998, l'accord de Nouméa a redonné 20 ans aux Calédoniens pour s'entendre. Un premier ministre de gauche encore à la manœuvre, Lionel Jospin, Emmanuel Valls, toujours dans l'ombre. C'est donc tout naturellement qu'il hérite du dossier. Ça va demander pas mal de doigté, parce que si l'indépendance constituerait une bizarrerie, comme l'a dit récemment Michel Rocard, son rejet pourrait conduire au chaos. C'est ajouter la dégradation de la situation économique avec la plongée des cours du nickel, la principale ressource de l'île. Le Premier ministre arrive avec 300 millions dans ses bagages et des propositions pour diversifier l'économie. Oui, moi aussi je marche, a-t-il lâché rieur, dans la foulée d'une allusion à Emmanuel Macron, et même je vole.
Manuel Valls qui, par ailleurs, assume ses contradictions entre, je cite, « engagement à gauche et réalité ». Dans un entretien à paraître dans le magazine Society, il assume l'instauration et le maintien de l'état d'urgence, la loi travail, et il répète que, selon lui, en 2017, la campagne devra se faire en partie sur les questions identitaires. C'est une première. Le Sénat vient de saisir la justice pour faux témoignage devant une commission d'enquête parlementaire. L'affaire concerne un pneumologue accusé d'avoir menti sous serment. Bonsoir à Gérard Mohamed.
Bonsoir Anne.
Cet ancien chef de service de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, était entendu par la commission d'enquête sur le coût de la pollution atmosphérique et il avait assuré n'avoir aucun lien avec les entreprises de ce secteur.
Oui, Michel Aubier, pneumologue très médiatique, est invité l'an dernier par les sénateurs. Ils ont besoin de son expertise pour évaluer ce coût de la pollution atmosphérique. Avant ça, le médecin doit évidemment prêter serment, comme le veut la procédure, pour affirmer son indépendance, son impartialité. Et il le fait, il jure n'avoir aucun lien d'intérêt avec les acteurs économiques du secteur. Sauf qu'en mars dernier, la presse s'en mêle. Libération et Le Canard Enchaîné révèlent que Michel Aubier travaille aussi pour le pétrolier Total comme conseiller santé depuis les années 90. Il siège au conseil d'administration de la Fondation Total et pour tout ça, il toucherait entre 50 000 et 60 000 euros par an. Le malaise est d'autant plus grand quand on connaît l'avis du pneumologue sur le diesel par exemple. Il y a deux ans, dans une interview, il affirmait qu'en cas de pic de pollution particules fines, aucun risque n'est à craindre, je cite, pour les personnes bien portantes. Alors que l'OMS, entre autres, a prouvé le contraire depuis bien longtemps, des confrères médecins scandalisés ont même rédigé une lettre ouverte le mois dernier pour dénoncer ces positions. Michel Aubier lui affirme qu'elles n'ont rien à voir avec Total. Mais pour les sénateurs, c'est clair, on ne leur ment pas sous serment, c'est un acte solennel qui engage son auteur. C'est ce qu'a rappelé ce matin dans un communiqué le bureau du Sénat. Le pneumologue risque aujourd'hui jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Merci à Gérard Mohamed. 50 mesures pour simplifier la vie des étudiants et des professionnels de l'université. Elles ont été annoncées ce matin par le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur Thierry Mandon. À partir de l'année prochaine, les étudiants inscrits à l'université n'auront à fournir qu'une seule fois les justificatifs nécessaires aux démarches de leur vie quotidienne grâce au portail étudiant.gouv.fr, portail déjà lancé mais dont les capacités vont s'accroître. Au moins 49 civils ont été tués cet après-midi en Syrie, dans la ville d'Alep, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, conséquence de raids menés par l'aviation du régime de Bachar el-Assad. La troisième étape des pourparlers de paix n'a rien donné et les combats ont repris de plus belle ces derniers jours dans la deuxième ville du pays. Le dernier pédiatre exerçant en zone rebelle a été tué hier dans l'attaque d'un hôpital au sud de la ville, attaque qualifiée de révoltante par Médecins sans frontières et condamnée par la France. La situation humanitaire, confirme Jens Larke, et dramatique. Il est le porte-parole d'OCHA, la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.
On a pu confirmer dernièrement la situation qui s'aggrave autour d'Alep avec des frappes aériennes. Ça veut dire que c'est une situation qui est extrêmement préoccupante. Il y a beaucoup de civils dans cette ville qui est occupée par les forces gouvernementales et leurs alliés, d'autre part par d'autres groupes armés. C'est un contexte qui est très difficile.
Avec ce nouveau contexte, quelles sont vos marges de manœuvre? Est-ce que vous avez arrêté l'envoi d'aide humanitaire?
Absolument pas. L'aide humanitaire se fait indépendamment du processus politique et militaire sur le terrain. Depuis le début, depuis 2012, on continue aujourd'hui, on continuera demain.
Combien de livraisons d'aide humanitaire, finalement, les agences de l'ONU ont réussi à faire passer en Syrie à ce jour?
Cette année, en 2016, on a pu atteindre 778 000 personnes dans ces zones qui sont très difficiles à atteindre ou bien assiégées par les différents groupes armés. Ça veut dire qu'on a pu aller de l'avant avec ces convois. Ça a été difficile. On a eu plusieurs situations où les convois étaient bloqués à plusieurs reprises, mais a pu atteindre la population dans le besoin quand même.
La semaine dernière, l'ONU avait réussi un parachutage de nourriture.
Oui, on a commencé il y a trois semaines à DRSA, qui a été coupé de l'aide depuis très longtemps. Aujourd'hui, le Programme alimentaire mondial a confirmé qu'ils ont réussi à faire un total de 15 parachutages dans la ville et on compte continuer à faire ces parachutages jusqu'à ce qu'on a atteint tout le monde, tous les civils sur le terrain.
L'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie a déclaré hier que durant ces 48 dernières heures, un Syrien est mort toutes les 25 minutes.
Ce sont des chiffres qu'on a vus depuis très longtemps. On compte aujourd'hui en Syrie 13,5 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire. C'est un chiffre énorme.
des propos recueillis par Nadine Epstein. À une semaine du premier tour des élections municipales à Londres, voilà une déclaration qui pourrait parasiter les débats. Celle de l'ancien maire de la capitale britannique, Ken Livingstone. Il a été suspendu du Parti travailliste aujourd'hui après des propos sur Adolf Hitler, Marie Vivant.
Adolf Hitler soutenait le sionisme. Ce sont ces propos tenus par Ken Livingstone qui ont créé la polémique. L'ancien maire de Londres voulait défendre une députée du Labour, suspendue elle hier, pour des propos jugés antisémites publiés en 2014 sur les réseaux sociaux. Par exemple, je cite, « N'oubliez jamais que tout ce qu'Hitler a fait en Allemagne était légal ». Aujourd'hui, sur la BBC Radio London, Ken Livingstone a tenté de défendre sa collègue, disant qu'elle n'était pas antisémite et que ses remarques étaient exagérées. Mais lui aussi est allé trop loin. Résultat, lui aussi est suspendu du Parti travailliste. Une sanction qui n'est pas assez sévère pour certains. 30 députés travaillistes demandent son expulsion du parti. Parmi eux, Sadiq Khan, candidat à la mairie de Londres, grand favori pour cette élection. Selon lui, les propos de Ken Livingstone sont épouvantables et inexcusables. Cette polémique a fait réagir jusqu'à David Cameron. Lors d'un meeting aujourd'hui, le Premier ministre britannique, conservateur, a jugé que le Parti travailliste avait un véritable problème avec l'antisémitisme.
En Turquie, deux journalistes viennent d'être condamnés à 2 ans de prison ferme pour blasphème. Ils étaient jugés aujourd'hui pour avoir reproduit la caricature de Mahomet diffusée par Charlie Hebdo. C'était après l'attentat contre le journal satirique du 7 janvier 2015. Le quotidien Cumhuriyet avait alors été l'un des rares à reproduire ces dessins et le seul dans un pays à majorité musulmane. À Istanbul, la correspondance d'Alexandre Billette.
Un coup dur contre la liberté de la presse et d'expression. C'est ce que dit la une du site internet du quotidien Cumhuriyet après la décision d'une cour d'Istanbul qui condamne donc à 2 ans de prison ferme les deux journalistes Hikmet Çetinkaya et Ceyda Karan. En janvier 2015, une semaine après l'attaque contre le journal satirique, le quotidien Cumhuriyet avait décidé de reproduire certaines caricatures du numéro spécial de Charlie Hebdo sans publier le dessin de une représentant le prophète. Mais les deux journalistes avaient décidé, eux, d'insérer ce dessin dans leur chronique par solidarité avec Charlie Hebdo. La suite ne s'est pas fait attendre. Le lendemain, la justice était saisie pour incitation à la haine et insulte aux valeurs religieuses. Les deux chroniques interdites de diffusion, le président Recep Tayyip Erdogan avait alors parlé d'insulte et le premier ministre Ahmet Davutoğlu de provocation. Aujourd'hui donc, la cour a prononcé leur condamnation. Les journalistes ont immédiatement indiqué qu'ils feraient appel. « Nous ne laisserons pas ce pays aux mains des fascistes », a écrit sur son compte Twitter l'une des deux journalistes condamnés.
L'Argentine annonce la fermeture de son bureau de la télévision vénézuélienne Telesur, décision du président libéral Macri élu en novembre dernier. Telesur est une télévision de la gauche latino-américaine. Elle a été fondée par Hugo Chavez en 2005 avec pour but de créer un CNN sud-américain. Depuis, la chaîne de télé émet au Venezuela, au Nicaragua, en Uruguay, en Équateur ou encore en Bolivie. Bonsoir Romane Frachon.
Bonsoir Anne.
Cette interdiction interroge sur les évolutions politiques de l'Argentine depuis l'élection de Mauricio Macri.
Oui, le ministre de la Communication et des Médias argentin a été clair. Telesur n'incarne pas un média d'information, mais d'opinion unidirectionnelle. D'emblée, le média chaviste annonce la couleur dans sa ligne éditoriale. Nous sommes une voie alternative au courant néolibéral et hégémonique. À sa naissance en 2005, le projet d'Hugo Chavez veut rassembler l'Amérique latine autour d'une patria grande, l'idée d'une seule patrie derrière un seul média. Le président actuel vénézuélien, Nicolas Maduro, a averti que si l'Argentine fermait définitivement Telesur, il mettrait tout en œuvre pour que les Argentins regardent la chaîne sur Internet. Telesur ne peut pas disparaître. Des millions d'Argentins vont se précipiter pour la regarder quand même sur le web, via les réseaux sociaux, s'est-il exclamé sur cette même chaîne. En Équateur, le président Rafael Correa a lui aussi exprimé ses regrets face à ce qu'il qualifie de censure dangereuse pour la démocratie argentine. Il ajoute dans une interview à Ecuador TV, ils vont devoir s'expliquer avec leur peuple, justifier leur acte. Telesur informe et nous avons besoin de correspondants à Buenos Aires. Devant les condamnations dans la presse latino-américaine, le président argentin a déclaré hier qu'il n'était toutefois pas opposé à une télé sud-américaine forte, mais elle ne doit pas être contrôlée par l'idéologie du Venezuela. Cette décision intervient 3 mois après la demande de Macri de libérer des prisonniers politiques au Venezuela. Le président argentin justifie donc cette rupture médiatique par son refus d'être complice du gouvernement vénézuélien.
Merci Roman Frachon. La matinée de votre vendredi sera grise et très souvent nuageuse sur le quart nord-est. En Bretagne, les nuages seront également nombreux avec quelques gouttes près des côtes. Sur le reste du pays, le soleil fera de belles apparitions. Il fera de moins 2 à 12 degrés demain matin. Dans l'après-midi, les températures oscilleront de 9 à 17 jusqu'à 21 en Corse.